listen to this kind of music.
Les trans, les PD, les Gwyn et leurs alliés déviants
prennent l'antenne sur Radio Canu,
la plus queer des radios.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur l'émission de la Déprave sur Radio Canu.
Donc aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est sur la transphobie. Et maintenant, les informations.
Donc, information internationale d'abord. À Kampala, en Ouganda, une nouvelle forme de colonialisme, la droite américaine soutient l'homophobie. Donc, des militants homophobes ont créé un groupe de travail visant à décourager les relations entre personnes de même sexe. Ils entendent combattre la propagation de l'homosexualité et du lesbianisme dans le pays et à terme éradiquer l'homosexualité. La formation du groupe a été vivement encouragée par la conférence organisée par le réseau de chrétiens évangélistes et pro-life. Donc ces anti-gays extrémistes américains devaient expliquer lors de cette conférence comment guérir de l'homosexualité. Les militants et militantes LGBT du pays craignent une violence accrue et d'autres abus des droits de l'homme contre les LGBT, les femmes et quiconque ne se conforme pas aux normes de genre. Ainsi, les homophobes font déjà le tour des églises où ils tiennent des conférences destinées à la jeunesse durant lesquelles ils insultent les gays et l'homosexualité.
À Moscou, le chef de la police estime que la Gay Pride est inacceptable. Alors, le chef de la police de Moscou considère que les Gay Pride dans la capitale russe sont inacceptables. Elles ne doivent pas être autorisées, a-t-il ajouté, se disant en accord avec l'Église, le patriarche, les politiciens et particulièrement le maire de Moscou, qui sont convaincus que l'homme et la femme sont faits pour s'aimer comme Dieu et la nature l'ont voulu. Dans un courrier adressé au maire de Moscou, le chef de la police faisait savoir que ses services surveillent les organisatrices de la Moscou Pride afin d'empêcher leur action. La Gay Pride du 17 mai prochain, si elle se déroule, risque d'être plutôt musclée. On est bien loin des Gay Pride insipides françaises. Donc, ensuite, au Burundi, 10 000 manifestants pour une criminalisation de l'homosexualité. Entre 10 000 et 20 000 personnes ont manifesté vendredi à Bujumbura, en faveur d'une criminalisation de l'homosexualité à l'appel du parti présidentiel burundais, soit la plus importante manifestation au Burundi depuis 2005. Le parti présidentiel organisait cette manif pour que l'homosexualité soit punie par le code pénal. Les organisateurs ont estimé à 20 000 le nombre de manifestants, tandis que la police a fait état de 10 000 manifestants. Bref, toujours pareil. Le parti présidentiel a organisé cette manifestation alors que le Sénat a approuvé le 17 février un projet de révision du code pénal, prévoyant notamment l'abolition de la peine de mort, mais a rejeté à une très large majorité un amendement introduit par l'Assemblée nationale visant à criminaliser l'homosexualité.
En Inde, à Madras, des toilettes publiques pour les trans. La ville de Chennai, anciennement Madras, s'apprête à installer des toilettes publiques spécialement destinées aux transsexuels dans 3 endroits de la ville où se concentre la communauté trans de la ville. Cette décision ferait partie d'un projet pilote qui reconnaît l'importance considérable de la communauté trans dans le sud et le centre de Chennai, qui compte 4 millions d'habitants. Le projet ne fait pas l'unanimité, certains redoutent qu'il n'isole et discrimine davantage encore les transsexuels et laisse de côté les personnes n'ayant pas effectué de changement de sexe. Nous, on se demande vraiment à quoi peuvent bien ressembler les WC trans. Un mix entre les WC de femmes et les WC d'hommes? Bon, trêve de plaisanterie, c'est pas en rajoutant un WC qu'on arrêtera les discriminations. Après, si ça peut éviter l'autodisation pour savoir dans quel WC on va pisser, pourquoi pas.
La marche des exclus du 8 mars à Paris, une centaine de transpédéguines et féministes ont défilé contre le patriarcat, l'hétéronormativité et pour l'émancipation de toutes, c'est-à-dire femmes, trans, racisées, blanches, lesbiennes, sans et avec papier, prostituées. C'était le 7 mars à Paris, la veille de la journée internationale des femmes. Ces féministes ont décidé de se séparer du cortège classique qui exclut systématiquement les femmes et trans les plus précaires, racisées, prostituées et sans papier. En effet, il y a quelques années, dans le cortège classique, des pseudo-féministes ont poursuivi jusque dans les bouches du métro des femmes voilées venues participer à cette manifestation. Donc dans le cortège, des banderoles ou pancartes proclamaient « Le féminisme n'a jamais tué, le machisme tue tous les jours. Ma fille est lesbienne, en quoi ça vous gêne ?» ou « Travailleuse sans papier régularisée pour la lutte, par la lutte et la solidarité. » Donc... Ouais. va écouter une chanson qui s'appelle Freaks, qui vient de la bande originale du film Hedwig and the Angry Inch. Sur les, toujours sur les ondes de Radio Canu pour l'émission de la Déprave. Donc le thème de cette émission est la transphobie et on aura le studio a été investi par les trans. Radio Canu investi par les trans, ouais. Et donc on va faire une d'abord un petit queer pour les queers pour définir la transphobie et puis ensuite on interviewera les personnes trans pour qu'elles nous racontent un peu la transphobie qu'elles vivent au quotidien. La transphobie est la discrimination exercée à l'encontre des personnes trans. Elle se manifeste par des comportements irrespectueux, de rejet ou de violence. La transphobie est souvent alimentée par les préjugés existants sur les personnes trans et le manque d'informations à leur sujet. Elle est largement constituée par les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle, donc au sexisme et à l'homophobie. La transphobie passe généralement par la négation de l'identité de genre que revendique la personne, ce qui est déjà très violent pour la personne ainsi discriminée. À partir de là découlent des comportements visant à l'exclure, moquerie, rejet au sein de la famille, insultes dans la rue, difficulté de trouver un emploi. On peut distinguer trois types de transphobie. La transphobie haineuse, qui aboutit à des agressions verbales ou physiques, des viols et des meurtres. La transphobie idéologique, où la personne, bien que n'étant pas motivée par la haine, tient un discours réfléchi, construit, qui discrimine les trans. Il s'agit là de personnes qui persistent, par exemple, à nier l'identité des trans, qui les considèrent toujours comme des malades mentaux, ou qui jugent qu'une personne trans doit avoir été stérilisée par un chirurgien pour avoir droit à des papiers d'identité, qui lui permettront de trouver un emploi. La transphobie due à l'ignorance. Les personnes concernées font souvent beaucoup de mal aux trans de leur entourage sans s'en rendre compte. Elles peuvent par exemple ignorer qu'il convient de parler au féminin à une femme trans parce qu'elles pensent que les femmes trans sont des homosexuels qui s'habillent en femmes. La discrimination n'est donc pas ici une volonté, mais la conséquence d'un manque d'information.
La société occidentale s'est organisée sur les deux sexes biologiques majoritaires,
mâle, femelle, auquel elle a fait correspondre deux sexes sociaux, homme, femme, puis deux genres, masculin, féminin. Cette organisation sexuée autour de la procréation a produit une société hétérocentrée et hétéronormative au service des hommes, mâles. Toute personne qui ne correspond pas à ce classement sexué et ne rentre pas dans le rôle correspondant se voit marginalisée, exclue de la société. L'exemple des intersexes est assez éloquent. Avant que les techniques modernes de la chirurgie le permettent, on leur demandait de choisir un sexe et de s'y tenir sous peine d'être brûlé vif. Les formules chromosomiques du sexe sont nombreuses. Plutôt que de les nommer toutes, afin de créer des catégories, il serait préférable d'abandonner les catégories binaires suivantes. Mâle, homme, masculin et femelle, femme, féminin.
Voilà, on va commencer l'interview par une petite présentation de chaque personne et de comment elle se définit.
Bon ben, bonjour, bonsoir. David Chrysalide, mais comment je me définis? Bah, c'est très simple, FTM, female to male, donc voilà, un homme trans, tout simplement.
Bon, moi je fais Plume, à la louche MTF, hein, MTF de service... je pourrais dire, j'allais dire plus nana quand il s'agit de politique, parce que plutôt féministe et plus transgenre quand il s'agit un peu de moi-même.
Bonjour, je m'appelle Lepka, je suis F2X, donc ça veut dire que je me définis en tant que transgenre, même si ma démarche au départ c'était de me masculiniser. Voilà, c'est ça.
Ouais, moi c'est Anakin, je sais pas, je me définis comme F2M, mais aussi trans boy, trans mec, fémi-trans, cissi-trans, voilà.
Ok, et moi c'est Translopette, et du coup je suis plutôt F2X. Donc la première question, c'est quelle réassignation vivez-vous au quotidien, d'abord dans la sphère administrative? Quelle réassignation au sexe de naissance, en fait, vous pouvez vivre au quotidien?
Oui, la question est un peu obscure, en fait. Je vois que je ne la comprends pas super bien. Non,
d'accord, mais c'est vrai. Alors j'ai qu'à donner un exemple de ce qui peut m'arriver à des moments. Par exemple, sur ce truc de un peu de binarité qui peut se passer dans les administrations, dans la sphère professionnelle ou amicale ou familiale, nanana. C'est, enfin, pour l'administration, en tout cas, moi, ça m'est arrivé plein de fois d'arriver, par exemple, à la Sécu et de demander un rendez-vous pour faire mon dossier CMU et que là, on me dise, mais c'est pas votre carte vitale. Et vous avez pris celle de votre copine. Et du coup, je dois insister pour dire que si, c'est ma carte vitale. Et voilà, enfin, des petits exemples comme ça au quotidien. Je pense qu'on en a des tonnes. Et donc, si vous en avez à raconter.
Oui, des caisses. Notre vie est faite que de ça. Moi, j'ai aucun changement du tout officiel. Donc absolument tous mes papiers sont à mon prénom antérieur, pas mon prénom féminin, j'ai pas de prénom féminin, j'ai pas de personnalité, j'ai juste un prénom choisi par mes parents. Et bah pareil, oui, j'ai contacté la NPE qui m'a rigolé au nez en me disant que c'était scandaleux de faire des blagues comme ça, qu'il fallait que les gens téléphonent eux-mêmes. J'ai téléphoné aux ACDIC qui m'ont raccroché au nez en me disant qu'ils avaient pas de temps à perdre. Je suis inscrit à deux facs, à Lyon 2 et à Marseille, et à Marseille pour ma thèse. Et quand j'ai téléphoné à la fac de Marseille pour voir où en était mon dossier, on m'a dit que pareil, on n'avait pas le temps, que oulala, que c'était une blague, enfin bref, voilà. Et puis, tous les désagréments, tu fais une prise de sang et puis on appelle mademoiselle machin dans la salle d'attente et tout le monde se retourne pour voir qui c'est mademoiselle machin avec des épaules larges et une grosse barbe. Puis personnellement, j'ai dû, ça me pose des problèmes aussi pour les concours, pour la fac, puisque je suis dans la fonction publique, enfin je rentre dans la fonction publique. Et quand on est malade mental, c'est pas très simple, en fait. Et puis pour le sport, évidemment. Tout ce qui concerne la binarité. Voilà.
Eh ben, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, en fait, de toute manière, je casse le morceau tout de suite. À chaque fois que j'ai affaire à une administration et tout, j'arrive en disant, bon, je suis trans. Tac. Parce que du coup, bah, je ne dis pas que ça règle la question. Mais en tout cas, ça pose tout de suite l'histoire et on ne pose pas. Moi, en plus, de toute manière, je le fais visiblement. D'une certaine manière, ça me... Je ne sais pas comment dire, dans l'état actuel des choses, et vu ce que je veux montrer, ça ne m'embête pas plus que ça. Justement, qu'on appelle monsieur, que ce soit plus ou moins madame qui arrive, et bah, ça fait une visibilité, quoi. Alors, c'est vrai que moi, dans ma vie, j'ai un minimum de confort, hein, j'ai avec la couteau et tout, donc je n'ai pas des gros enjeux. Si j'avais des gros enjeux, c'est clair que je ne m'amuserais pas à tout ça. Mais voilà, c'est un peu comme ça pour le moment.
Bah, quoi dire, c'est vrai que. Bah, donc ce problème administratif de à chaque fois devoir se rencontrer face à des personnes qui ne croient pas que c'est ta vraie identité, bah, c'est tout le temps. Après, moi je pense que le problème c'est plus un problème de fond de ne pas pouvoir exister en dehors des catégories très fixes. Donc du coup, à niveau administratif, parfois ça résout très vite parce que voilà, tu poses clairement « je suis transsexuel », du coup ça fait peur aux gens et du coup ils s'étaient d'un coup. Après c'est plus voilà, humainement, à travers l'administration ou dans tous les autres domaines, voilà, de présenter avec une identité qui n'est pas carrée à masculin et féminin, et donc du coup comme la société elle est construite de cette façon-là, d'une façon très binaire et aussi très du coup avec des bases très sexistes et patriarcales. Donc du coup, quand tu ne veux pas te situer ou tu as une contradiction par rapport à ça, bah, en fait les gens ils n'arrivent plus à relationner avec toi, soit ils t'excluent, soit ils te catégorisent ou même ils décident pour toi en fait dans quelle catégorie tu t'es assigné, quoi. Donc voilà, en fait, moi je pense que la séminisation, pour moi, c'est pas si un gros problème. Dans le travail, c'est encore une autre histoire, mais finalement, comme on est un numéro de plus, bah, au bout d'un moment, tu te dis, voilà, regardez ma pièce d'identité, bah, c'est bien moi, bah, ils n'ont plus rien à dire.
Ouais, moi, par rapport à la pièce d'identité, je pense que les majeurs problèmes que j'ai pu avoir dans une sphère administrative, c'est plus des problèmes avec la police qui savent pas trop bien comment est-ce qu'on doit me fouiller, par qui la fouille s'effectue. Est-ce que c'est un policier femme ou un policier homme qui me touche, et ils évitent un peu de trop toucher de peur de pas savoir ce qu'il y a dans le caleçon. Donc finalement c'est assez drôle, mais c'est faut en jouer à un moment donné. Et moi j'évite de toute façon le rapport avec les administrations en général, donc ça va, j'ai pas énormément de problèmes avec ça.
Ah, moi, je me souviens, comme ça, une histoire avec des keufs où, du coup, ils me demandaient, il y a un problème, là. Ils regardaient ma carte d'identité, il y avait, c'est ce qu'ils disaient, ils changeaient pas le truc, c'est, il y a un problème. Puis au bout d'un moment, je me disais, non, il n'y a pas de problème, et tout. Puis au bout d'un moment, j'ai fini par lâcher le truc de dire, ok, je suis trans, et du coup, ils ont fait, mais vous êtes trans tout opéré. Alors, du coup, je savais pas trop ce qu'ils voulaient dire par tout opéré, ça m'a bloqué, j'étais là, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Et en fait, c'était juste de savoir si j'avais une bite ou pas pour savoir par qui j'allais me faire fouiller, quoi. C'est quand même. Voilà. Et sinon, moi, pour le truc des administrations, j'ai réussi à faire bugger le serveur des ACDI. Enfin, pas le serveur, mais j'ai fait bugger le dossier informatique, parce que du coup, j'en avais marre des cases mademoiselle, madame, monsieur. Et du coup, au bout d'un moment, je fais, je sais pas quelle case cocher, et je dis, bah tiens, je vais cocher monsieur pour voir. Et du coup, je me suis inscrit en tant que monsieur, et sauf que ma carte de sécu a toujours un 2 en numéro premier, là, le premier numéro. Et du coup, le conseiller ACDI qui remplissait mon dossier, il tapait les derniers chiffres de ma carte vitale, et ça buguait à chaque fois. Puis moi, ça me faisait rire parce que je savais très bien pourquoi. Et pendant 2-3 minutes, il a essayé de retaper les derniers chiffres. Puis au bout d'un moment, il regarde ma carte, puis il fait, ah, mais c'est pas votre carte vitale, enfin, toujours la petite blague. Et je fais, si, c'est ma carte. Et du coup, là, il a fait, ah, ah, Ah oui, d'accord. Vous êtes en train de devenir un monsieur. Je crois qu'il a dit quelque chose comme ça. Et du coup, au final, il a dit bon, bah, on a qu'à remplir un dossier à la main. Alors, voilà pour la petite histoire. Du coup, on va continuer avec du coup Lebka. Tu parlais que dans le travail, c'était pas pareil. Et du coup, on va parler un peu de la sphère professionnelle et comment ça peut se passer des fois au boulot. Ces trucs de transphobie, comment ils apparaissent et comment on peut les vivre.
Ah non. En fait, moi, ces derniers temps, je me dis que j'aimerais travailler dans des sphères professionnelles où ça se pose pas la question de devoir se définir d'être un homme ou une femme. Mais ça, ça existe pas encore. Donc du coup, ma solution, c'est le chômage pour l'instant. Et en fait, voilà, pour moi, c'est des questions que je me pose vraiment en ce moment, c'est de me dire, voilà, comment réussir à avoir de l'argent pour vivre, de quelle façon, et si c'est dans une sphère professionnelle normale, entre guillemets, comment pouvoir exister sans se péter un câble en tant que soi-même quand on est transgenre, et comment cette identité... Elle peut être exprimée et être respectée. Et comment, en fait, ça, c'est en général assez difficile, quoi. Donc, voilà, soit rester invisible et dire, voilà, en fait, j'ai fait semblant d'être un mec, mais c'est pas du tout ça qu'est-ce que je ressens. Soit c'est de... Voilà, en fait, créer d'autres espaces de travail. En fait, c'est ça que j'aimerais bien. Créer des espaces de travail ou un travail entre des personnes... donc, transgenre, transpédéouine ou simplement bah, avec des identités autres que les normatives, ou des formes de vie autres que les normatives, où chacun, en fait, puisse exprimer, définir son identité sans devoir faire appel à les normes que la société nous impose, quoi. En fait, voilà, moi j'ai un peu d'expérience dans les métiers du bâtiment et c'est en général, dans la norme de chantier, c'est assez pénible d'être trans dans ce domaine. Mais en Allemagne, il y a des coopératives de travail dans lesquelles je connais des amis où ils se sentent plutôt bien et se sentent plutôt respectés. Donc du coup, je pense que... Peut-être qu'on a des possibilités, ouais, j'ai d'espoir quand même qu'on arrive à créer soit des coopératives, soit des formes en fait, de trouver de l'argent collectivement entre des personnes autres, qui se définissent autrement que dans les catégories normatives. Quoi. Voilà, je sais pas.
Ouais, ouais, c'est ça, j'ai fait l'expérience pendant 5 mois de travailler en tant que mec, du coup, dans une administration. Et c'est vraiment pas supportable dans un truc où moi j'avais vraiment l'impression de pas du tout être moi et de devoir me censurer sur plein d'aspects et de montrer, je sais pas, une image de moi qui était pas la mienne ou quoi. Et d'être à plein de moments dans un truc un peu d'insécurité, de pas savoir si les gens y savaient ou pas, nanana, et que c'est vraiment hyper pénible en fait. Et du coup, ça a duré 5 mois, et déjà 5 mois c'était énorme. Et surtout, enfin, dans un truc quotidien où j'avais l'impression que, suivant les réactions que je pouvais avoir, si je faisais pas attention à tout ça, je sais pas si on me prenait plutôt pour un PD, plutôt pour vraiment quelqu'un de bizarre ou quoi, je savais pas. Et qu'il y avait un truc, je crois, ultra. Je crois que ce qui m'a surtout blessé aussi, c'est un truc de ok, je suis dans un truc de revendiquer le fait d'être trans et tout ça, et que là en fait, comme j'étais en minorité, et ben je m'écrasais et que du coup je rentrais dans un truc un peu binaire où j'avais cette espèce de... Enfin, il y avait ce truc des mecs qui faisaient forcément solidarité avec moi parce que j'étais censé être un mec et qui pouvaient tenir des propos craignos où du coup je rentrais pas dans le jeu, mais j'étais pas non plus dans le truc de me battre à fond pour qu'ils arrêtent leur truc parce que je me sentais pas non plus ultra en sécurité vis-à-vis d'eux. Et que du coup, enfin voilà, c'est ce dilemme un peu entre à des moments vouloir se visibiliser et à des moments aussi être en minorité dans un milieu hostile et de comment on arrive à survivre ou comment... Voilà. Un truc de l'ordre de la survie, effectivement. Et qu'au final, eh ben, le RMI ou le chômage, ou la côte au REP, du coup, c'est des alternatives à ces trucs-là de ne pas vouloir être dans des milieux hostiles et que c'est pas mal, quoi.
En tout cas, c'est des possibilités qui existent seulement en France, parce que dans la plupart d'autres pays, il n'y a pas de revenus sociaux. Et donc, quoi, je pense que pas mal de personnes trans se retrouvent dans des situations où il n'y a pas trop le choix. Et notamment, on regardait un film pendant le festival XYZ à Toulouse, que je ne sais plus comment c'était l'intitulé, mais c'était les trans en prison. C'était des trans en prison. Aux États-Unis, et c'était des trans M2F, et c'était vraiment, voilà, en fait, c'était vraiment des personnes hyper combatives dans lesquelles, en fait, en les regardant et en écoutant son histoire, moi, j'ai prenais de la force, mais en même temps, de voir comment, en fait, pour elles, c'était tellement galère d'arriver à trouver des solutions pour survivre économiquement, et comment, en fait, ça revenait à devoir se confronter avec la prison, parce que, voilà, comment trouver un logement, comment trouver un travail, quand, en fait, on est tout le temps visible en tant que trans, et... Donc du coup, voilà, je trouve que quand même, voilà, en fait, il faut quand même remarquer que c'est pas pareil dans tous les pays, voilà.
Ouais, je pense que c'est pas pareil dans tous les pays, c'est pas pareil selon de quelle classe sociale on vient, de quelle couleur de peau on a, je pense que même en France d'ailleurs, il y a certains arbitraires, hein, la Coto, c'est bien connu, il y a des personnes qui l'ont plus facilement que d'autres, j'en fais partie de ces personnes d'ailleurs, et voilà, faut pas trop l'oublier. Non, moi j'avais bien envie justement de causer, c'est très intéressant ce que disait Nelly. Un des aspects de la stigmatisation, et ça c'est pas que des trans, hein, c'est, j'ai l'impression un peu de tous les groupes sociaux stigmatisés, c'est qu'on attend en plus toujours quelque chose des personnes de ces groupes. Et si ça vient pas, en plus, les personnes dominantes par rapport à ces groupes ont une légère tendance à se servir. Et à se servir en plus avec la meilleure conscience du monde. Et un esprit, le pire c'est que c'est une espèce d'esprit de positivité. Et là je voulais parler de deux trucs qui me frappent beaucoup, c'est d'une part il y a l'exotisation. L'exotisation des trans, mais qui est aussi l'exotisation des personnes racisées, voire aussi d'autres catégories. Et qui, effectivement, en apparence, a l'air super sympa. Alors bon, en plus, ça peut se passer sur plusieurs plans. Hein. Ça peut se passer sur le plan affectif, ça peut se passer sur le plan sexuel, mais ça peut aussi se passer sur des plans plus généraux de la vie sociale. Et effectivement, comme ça a l'air super sympa. En plus, il faut reconnaître que, voilà, bon, moi je vais parler en tant que MTF et lesbienne, on est formaté aussi par notre histoire et ce qu'on nous renvoie la gueule à dire, purée, si un jour une fille bio nous désire, c'est qu'on est, oh là, on est vraiment en classe, on est vraiment bien transitionné, nanani, nanana. Ok, sauf qu'il restera, et qu'il reste, indépendamment des bonnes intentions de tout le monde, hein, il restera le rapport de pouvoir. Et ce rapport de pouvoir, il peut être super destructeur. C'est pour ça que, moi j'y dis toujours, c'est d'une certaine manière, je trouve vachement bien l'histoire de désir entre les personnes de classes différentes et tout, mais faire super gaffe, dans ce cas-là, au rapport de pouvoir que ça induit, parce que, bien souvent, c'est destructeur pour la personne qui, dans ce rapport, je dis bien dans ce rapport, hein, parce qu'on peut avoir plusieurs rapports de pouvoir, est dominée. Parce qu'il y a des rapports de domination. Et je pensais aussi à un autre truc, moi, qui me frappe assez souvent, et ça c'est particulièrement dans le milieu, on va dire, dans le milieu queer ou dans le milieu alterno, c'est... comment pourrais-je définir ça et là encore, en partant d'un super bon sentiment, une certaine manière de prendre l'espace et de parler pour nous. Et là aussi, c'est pas valable que pour les trans. Mais bon, moi j'ai expérience en tant que trans, de personnes qui vont effectivement, j'allais dire, même devant moi, quand tranquillement parler de ce que c'est l'expérience d'être trans, etc. Alors moi, je suis absolument pas pour mettre des limites, à dire être trans c'est ça, tu n'es trans qu'à partir de tel moment, etc. Moi, je le vois plutôt d'un point de vue de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on collectionne comme pouvoir dans la société, comme légitimité dans la société. Hein, moi, par exemple, je suis blanche, je ne vais pas aller causer pour une personne black. Non pas que je trouve, c'est pas que je dirais qu'il faut absolument qu'éternellement toutes les paroles soient séries et tout, c'est simplement que moi je vais pouvoir en tant que dominante parler peut-être pour plusieurs catégories, sauf que la personne dans l'autre sens ne va pas pouvoir parler pour plusieurs catégories, on ne va pas lui permettre. Et il ne faut jamais oublier qu'en tant que trans, on est plus bio dans un sens, on ne sera jamais dans un autre, après on n'a pas envie de l'être, mais ça c'est une autre question. Et qu'on ne pourra jamais parler en tant que bio. Et que moi, je vous que je suis assez énervé quand des personnes qui, par ailleurs, peuvent jouer un peu, être un jour bio, un jour trans, parce qu'elles n'ont pas perdu leur privilège de bio, écrivent des trucs. Moi, je pense à des personnes comme Preciado, etc. Vont être un jour ça. Et moi, c'est même pas le contenu. Le contenu, en plus, il peut être vachement juste. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que cette personne va prendre vachement de place. Et que moi, et toute autre personne discriminée, va perdre cette place. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ben, c'est plus moi. Peut-être que je dirais exactement la même chose, c'est pas sur le contenu, moi. Je pose pas de problème sur le contenu, c'est simplement sur le fait que, ben, à certains moments, il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui, sur un plan donné, et là, on va parler spécifiquement au plan de genre, ont la possibilité d'avoir plusieurs places, et d'autres qui n'ont pas la possibilité d'avoir plusieurs places. Et que j'aimerais bien qu'on laisse la place, un minimum de place, quand même, aux personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir plusieurs places. Je pense que c'est un truc de, oui, de, c'est un truc de réflexion sur le pouvoir, c'est presque un truc de tact, je dirais. Et je trouverais ça quand même super important que ça soit réfléchi, parce que je trouve qu'il y a des gros dérapages dans le milieu des fois.
Ok. Mais c'est vrai que souvent, enfin, c'est un peu ce qui ressort tout le temps, c'est qu'à un moment donné, en tant que dominant, dominante, il y a vraiment cette volonté d'avoir sa place partout et de vouloir prendre la parole à chaque fois, même de vouloir absolument prendre la parole même des dominés, dans un truc de poser sa domination, et que du coup effectivement on le retrouve pour les blancs, on le retrouve pour les mecs bio, pour les mecs en général, pour les bio, etc. On continue un peu du coup l'interview et on va parler un peu maintenant de la transphobie dans la sphère familiale. Alors moi j'enchaîne avec une petite anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps quand je suis allé voir ma grand-mère. C'est pas et du coup elle me parle toujours au féminin, parce que bon, elle a bien vu que j'avais un peu changé, que j'avais de la barbe qui avait un peu poussé, etc. Mais bon voilà, elle a du mal avec les pronoms, je sais pas. Et du coup c'était marrant parce qu'au début on était donc tous les deux en train de discuter, et là il y a une dame qui arrive pour je sais plus lui faire son ménage ou l'épilation du visage, j'en sais plus. Mais elle me présente comme sa petite fille, et du coup je vois bien que la dame, elle était un peu genre surprise, on va dire, parce qu'elle a... ouais voilà, elle était là, mais il y a quelque chose qui se passe, je comprends pas bien, enfin voilà, la situation, elle était vraiment, elle est, enfin moi je sais pas, moi je l'ai vécu comme un peu tendu, parce que je me disais bon, c'est un peu du foutage de gueule, enfin elle m'a présenté comme sa petite fille, à la fois c'est vrai que je passe pas pour une petite fille, quoi, du coup du coup, je me sentais un peu gêné, alors j'avais mon col remonté jusqu'au menton pour essayer de dire non, j'ai pas de barbe, mais ça passait pas du tout, j'ai une voix grave. Enfin voilà, c'est une situation un peu délicate qui a duré quand même, mais bon, voilà, un petit exemple.
Tu veux parler ?
Ouais, bah.
T'as l'air tout mourir. Ouais.
Bah, mes parents me parlent toujours au féminin, et bah, c'est vrai que. Dans un sens, je les pousse pas vachement à me parler au masculin, parce que je crois que j'ai du mal avec ce truc de être considéré comme un fils, enfin, de plus en plus. Et c'est vrai que malgré tous les efforts pour passer dans ma famille, donc je me rase de super près. Je mets mes plus beaux habits, mais bon, je me remets pas en jupe ou en robe, parce que j'ai jamais fait, mais bon, j'essaye de passer en fille, et mes amis me disent que ça ne marche pas, que quoi que je fasse, ça le fait pas, quoi. Donc bon, voilà, pour le moment mes parents et mes petits frères me parlent au féminin, et je pense que je pousse pas plus que ça, et qu'ils ont, ils font quelques efforts de temps à autre, mais c'est vrai qu'ils sont un peu surpris de voir leur sœur et leur fifi chérie changer à ce point là. Mais bon, je sais pas trop comment faire en fait avec. Vous êtes comment vous avec vos parents? Parce que moi j'ai un sourire de fille et tout ça, hein. Moi j'ai le sourire adapté, tout ça, qui leur plaît. C'est...
Bon voilà, ouais, voilà. Ouais. Moi de mon côté, quand j'ai commencé à transitionner, j'ai changé de pays.
Ah oui, c'est radical.
Du coup, ça faisait 1000 km de distance pour amortir les pétages de plomb de ma mère qui se demandait pourquoi. Il arrive ce malheur, tout ça. Donc, du coup, j'étais allé un peu en compte-à-goutte, je ne sais pas comment dire en français. J'étais allé tout doucement, je lui ai dit voilà, en fait. Et je pense que j'ai envie de changer un peu, je sais pas quoi. Et en fait, la distance, elle a vraiment aidé dans ce sens. Mais en fait, pour moi, en fait, ma démarche, elle a toujours été de... pas forcément... j'ai pas, en fait, je pense que j'ai devenu un peu un garçon pour accident. Je sais pas, c'est pas comment expliquer, mais je voulais plus rester dans les genres imposés. Et du coup, voilà quoi, je me masculinisais. Et socialement, bah, c'était la seule possibilité que j'ai trouvée, c'était d'utiliser un prénom masculin pendant que j'avais une apparence plutôt féminine. Donc j'ai fait ça avec ma famille. Et du coup, pour ma mère, je pense, parce qu'avec mon père, j'ai encore moins de contact, c'était facile en fait de que je lui montre un aspect linéaire, quoi. Voilà, donc bah, non, je suis un garçon et je m'appelle comme ça et tu dois m'accepter, quoi. Après, petit à petit, je ne sais pas, pour ma manière de faire, pour ma manière en fait j'accepte en fait ma féminité, je n'essaye pas de la changer. Et quand je suis avec ma famille, bah, je n'essaye pas de jouer le garçon, quoi. Donc du coup, je ne fais pas des efforts. Et parfois, voilà, oui, je me parle en féminin ou quoi, et moi, ça me va. Je voudrais quand même qu'ils comprennent ma démarche transgenre, mais je trouve que c'est trop loin, en fait. Je pense que c'est trop loin pour eux de, en même temps, avoir accepté que j'ai changé, que je masculinisais, et en même temps, accepter plus tard que je préfère être transgenre. Donc, du coup, ça reste. Je suis masculin, en même temps, je les crois à moitié. Voilà, ça voilà,
si t'étais plus genre hyper mec, peut-être que ça passerait plus, quoi.
Ouais, je sais pas, tu vois, déjà, une fois, j'ai dû s'amener un garçon à la maison en été, tu vois, genre. J'avais pas vraiment une histoire avec lui, quoi, mais ça faisait un peu le couple à PDO, quoi, entre lui et moi. Du coup, déjà, tu vois, j'ai commencé à transitionner, je l'ai jamais, tu vois, j'ai jamais eu de copine, ou jamais j'ai parlé, tu vois, dans des trucs hétérosexuels. Donc, du coup, déjà, il se voit que je peux pas rentrer dans des trucs de couple hétérosexuels, que c'est impossible pour moi. Donc, déjà, du fait d'avoir une sexualité un peu. Aussi, je ne sais pas comment dire, plus pédéouine que hétérosexuel, bah, pour vous aussi, c'est encore plus difficile dans sa perception de dire « Ah oui, on a un fils qui va nous amener à la maison, sa copine, et on va faire repas ensemble. » Voilà, quoi, je suis transgenre.
Le repas du dimanche.
Bon, c'est assez loin pour faire ça tous les dimanches. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça que je le vis. Voilà.
Ben, moi, je voulais juste revenir un petit peu là sur le débat sur comment s'intégrer dans la société quand on est trans. Moi, j'ai pas opté pour la Cantoret, pour le RMI ou tout ça. Par contre, c'est formidable que ça existe quand on fait une transition. Enfin, il faut un filet de sécurité, quoi. Donc, on a de la chance encore en France que ça existe. Mais moi, ça me paraît important, quoi, non pas de vouloir s'intégrer. Enfin, il y a pas de raison de, surtout, enfin, vu ça, quoi, il faudrait s'intégrer, ça me paraît pas très intéressant. Mais en tout cas, ça me paraît important de pas renoncer à ce qu'on veut vraiment dans la vie, même si ça prend plus de temps que pour une personne qui a des attributs sociaux un petit peu plus avantageux que les nôtres. Mais qu'il faut pas, voilà, céder à la peur, céder à la panique. Moi, je sais très bien que j'ai une sale tête. Hein. Je sais très bien que quand je passe les concours, je passe pour la gouine de service, d'autant que j'y vais avec les vêtements de mon père, qui sont les seuls vêtements propres et potables pour un concours que je peux trouver et dans lesquels je peux rentrer. Donc forcément, voilà, je passe pour une camionneuse. Je sais que je passerai pour une camionneuse auprès de mes chers élèves. Et je sais que je passe pour un PD avec auprès de tous mes chers collègues de promo d'agrégation, et auprès des profs aussi qui me regardent avec des yeux globuleux en se demandant qui est cette personne. Mais il faut assumer en fait. Enfin, je veux dire, il faut juste assumer le fait d'être bizarre. Et puis j'ai fini par me dire que de toute façon, les trucs qu'ils peuvent imaginer sont tellement plus horribles que tout ce que moi je pourrais imaginer qu'ils pourraient imaginer. qu'il faut juste en fait, accepter entre. Il y a des gens qui ont un espèce de regard comme ça compatissant, qui me regardent comme un petit hamster qui courrait dans sa cage. Il y en a qui osent même pas me parler, qui m'ont, quand je leur écris, ils me répondent pas par email, comme si c'était contagieux par internet. Mais je trouve qu'on a notre place. Je veux dire, si tu veux être prof, si tu veux faire un truc, enfin moi je veux être prof, mais si tu veux faire du sport, si tu veux n'importe quoi que vraiment t'as envie de faire, bien sûr ça va être beaucoup plus dur à cause de cette histoire de 1 et de 2 et à cause de toutes les procédures de changement, mais je trouve que voilà, il faut pas renoncer, il faut pas se laisser. Je vois qu'il y a un poster de Martin Luther King là, et je trouve que c'est très important comme devise. Non, je trouve qu'il faut pas perdre ce qu'on veut faire de vue en fait, même si c'est long et douloureux. Faut pas se laisser abattre, faut pas se laisser avoir par les autres. Et les autres, donc pour revenir à la troisième partie de l'émission d'aujourd'hui, les parents. Moi je suis un tout petit peu plus âgé que vous, donc j'ai moins de problèmes par rapport à ça, puisque j'ai compris que j'étais bien trop bizarre vers l'âge de 10-12 ans. Et à l'âge de 10-12 ans, je me suis dit que vraiment, dès que c'était possible, je les fréquenterais plus jamais. Et donc j'ai coupé court avec toute... je n'ai pas de famille en fait. Je vois que mon père, qui m'appelle par mon ancien prénom pour une raison obscure, alors que je lui ai expliqué moult fois de quoi il en retournait, et qui m'a dit qu'il avait compris. Alors je sais pas ce qu'il a compris, mais bon. Mais je relève pas, parce que voilà. Enfin, je trouve que en tant que personne d'une minorité, il faut pas non plus. J'ai du mal à comprendre en fait les gens qui s'évertuent à vouloir fréquenter leurs parents et leur famille en fait. Les gens qui vont à Noël chez leurs parents, qui fêtent leurs anniversaires avec leurs parents. Je trouve que c'est bien cher payé pour un gâteau d'anniversaire, en fait, que de se laisser parler encore au féminin ou me demander quand est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie. Enfin, pourquoi pas, mais enfin, pour le coup, moi, ça me paraît super important là, de ne pas avoir une attitude suicidaire quand on est plus jeune et de prendre le temps. Et parce qu'on dépend financièrement de ses parents, et de prendre le temps, quoi, de mener sa vie tant bien que mal sur la marge, tel qu'on l'a tous plus ou moins fait, je pense, ici. Et puis dès qu'on peut, de prendre les voiles et faire comme Diego, d'aller très loin pour pouvoir mener sa vie, quoi. Mais voilà. Je sais pas si quelqu'un a une recette magique pour comment faire comprendre aux parents qu'il faudrait peut-être nous parler au féminin.
Ah oui, j'en ai une.
C'est quoi ta recette magique?
Moi, une fois, j'en avais tellement marre que mon père me parle au féminin dans un truc où il captait pas ma transition. Du coup, ça faisait vraiment un moment et je bouillonnais et j'étais là, mais en fait, ça m'énerve parce que c'est un truc à un moment donné de complètement nier le fait que je transitionnais ou des trucs comme ça. Alors du coup, je l'ai appelé maman. Et du coup, ça l'a tellement. Il s'est arrêté et je crois que ça l'a vraiment calmé dans un truc de. Ça te paraît complètement absurde. Bah, moi, ça me paraît complètement absurde que là, tu me parles au féminin alors que je t'ai dit que je transitionnais, nanana. Et que du coup, après, il faisait super gaffe aux pronoms.
Bah, c'est ça, c'est pas le féminin qui me gêne. Je m'en fous en fait. Enfin, les pronoms, tout ça, c'est pas moi qui les ai choisis. Je revendique rien en fait. Je m'en fiche complètement. C'est le fait qu'à vouloir me parler encore au féminin alors que je lui ai dit que par défaut, je préférais quand même le masculin. Bah non, même ça c'est pas possible, alors qu'il y a quand même que deux pronoms, je veux dire, c'est pas la mort, on s'est adapté, tu vois, enfin, je me dis FTM, en fait je suis pas vraiment FTM, c'est plus compliqué que ça, mais pour parler aux gens bio, on simplifie les choses, tu vois, parce que si je commence à leur expliquer qu'en fait, oui mais non, puis je suis pas hétérosexuel, oui d'accord j'ai une copine, mais en fait c'est plus compliqué que ça, tu vois, enfin bon, voilà, tu leur mâches un peu le travail, et même en leur expliquant les choses... Très clairement, tu vois, on a quand même des signes clairs. Je mets pas de jupe, j'ai une barbe, enfin, je veux dire, bon. Je sais pas. Je comprends pas cet entêtement de l'image parfaite, de l'enfant parfait, que j'ai jamais été en plus.
Ok, on continue sur la dernière question dans ce. dans cette série là, qui est enfin du moins sur la réassignation, qui est donc la transphobie avec les amis. Et du coup, moi, je me souviens par exemple quand j'ai transitionné que ce qu'on me renvoyait au moment où j'ai dit à mes potes que je transitionnais, ce qu'on me renvoyait, c'était surtout notamment au niveau des hormones, où les gens me disaient « Ah là là, mais c'est super dangereux pour ta santé, t'es sûr que tu veux faire ça ? Parce que quand même, faut vraiment y réfléchir. » Et voilà, et heureusement, j'étais entouré par des potes trans qui me soutenaient. Et à un moment donné, ces bio là qui me disaient que c'était trop dangereux pour la santé, je leur ai dit « Mais la pilule contraceptive, là, tu la prends ou quoi ?» Parce qu'il y a notamment... des potes meufs qui me disaient ça, et du coup je disais la pilule c'est pareil, c'est des hormones, alors pourquoi tu me poses autant de questions à propos des hormones, enfin voilà, du coup c'était ma manière de parer un peu cette réflexion, mais j'ai trouvé ça abusé dans un truc ultra naturalisant en fait de renvoyer le truc de les hormones c'est dangereux pour la santé, mais c'est dangereux que si tu fais une transition, parce qu'en fait si tu prends la pilule pour pas avoir d'enfant ou des trucs comme ça, ça passe quoi. Bon, encore pas tout le temps, mais quand même.
Moi je crois que le pire qu'on m'ait dit c'est ah non mais en fait je te croirais pas tant que tu l'auras pas dit à tes parents. C'est les boules quoi. Genre comment ça me croire, tu veux dire quoi par là, enfin il fallait vraiment que le truc soit vraiment établi, officialisé par les parents, qu'il y ait le tampon, tu as fait ton coming out en bonne et due forme. Et ouais, c'est, je pense, le truc qui m'a vachement blessé, parce que ça venait d'amis super proches. Moi, j'étais pas du tout dans un milieu queer et machin, donc j'en ai parlé à mes potes de lycée, en fait, quoi. Et ça m'a fait un truc du genre, mais de quoi tu me parles, quoi? Tu veux que je dise à ta mère que tu fumes des joints tous les jours? Et enfin, il y avait un espèce de truc genre hyper bizarre quoi. Donc voilà, moi ça m'a fait un truc comme ça où je me suis un peu éloignée de toute cette sphère d'amis que j'avais par le passé, et que j'ai rencontré d'autres gens qui m'ont soutenue autrement quoi. Voilà.
De moi au début, bien sûr, j'ai déjà vous ai dit, j'ai changé de pays. Une raison aussi, c'est que, en fait, moi j'étais dans un groupe de lesbiennes féministes radicales, dans lequel en fait la transformation était des trucs tabus, quoi. On ne parlait jamais. Une fois était venu un trans à M2F à parler sur son parcours, et les gens étaient là hyper gênés, genre ils ne savaient pas trop lui poser des questions et tout. Et moi ça m'avait trop touché, ça m'avait dit oui, il y a quelque chose dans moi, moi aussi je veux transitionner, mais je ne sais pas comment. Et en fait j'étais allé à Corruption, que c'est des rencontres à Trans Pédéouine, à Nashis Squatter, qui s'était déroulé à Berlin en 2012, je crois, ou 2003, je ne sais plus. Et à ce moment-là, en fait, j'ai rencontré des personnes qui avaient des parcours très différents, qui avaient pris des hormones, mais qui ne voulaient pas s'opérer, qui voulaient faire une mastectomie, mais c'était tout. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que je pouvais devenir autre chose que F2M hétérosexuel, quoi. Et ça m'a vraiment rassuré. Après, en fait, maintenant, dans ma vie quotidienne, le truc, c'est que... en fait, au départ, j'ai revendiqué un prénom masculin parce que j'ai rassemblé beaucoup en filles et que personne ne me parlait masculin. Et après, à partir du moment où je rassemble un garçon, je pense la plupart des fois, quand j'ai dit que je me définis en tant que transgenre, en fait, j'ai dit, mais je n'ai pas l'impression que les gens ils l'entendent vraiment ou qu'ils n'arrivent pas. En fait, je veux dire, à partir du moment où j'ai une image beaucoup plus masculine, en fait, j'ai l'impression que les gens ils se bloquent sur ça, et que si je dis, ok, moi je suis transgenre, donc du coup, tu peux utiliser deux pronoms, ou tu vois, ou m'apercevoir dans les deux genres. En fait, les gens, soit ils ne peuvent pas, soit ils ne veulent pas, mais dans un truc où voilà, les gens, je crois que depuis que j'ai défini en tant qu'étranger là-bas, peu de gens de temps en temps osent me parler en féminin ou ils le font. Et j'ai des trucs comme ça où en fait, dans les milieux comme ça, militants trans-pédéouines, tu vois, il y a des trucs assez cool qui sont faits par rapport à des brochures, comment aborder un F2M ou des trucs comme ça, où en fait, les gens essayent de comprendre, de dire c'est quoi la transition, tout ça. Mais quand tu commences à sortir de ça, en fait, en tant que trans, tu peux être à 50 000 trucs différents, avec 50 000 parcours différents. Bah, en fait, si tu ne rentres pas dans ces deux choses, quoi, F2M ou M2F, bah, les gens ils sont super du mal. Quoi. Et la définition en tant que transgenre, j'ai l'impression que les gens... J'ai l'impression parfois que les gens ils me renvoient des trucs de « je suis un garçon ». Et en fait, ça me dérange, je ne sais pas trop comment m'en sortir parce que... Je sais pas, je ne veux pas forcément retourner dans un truc où j'aimerais profiter des vêtements féminins et tout. Et voilà, donc du coup, je voulais simplement dire que parfois, ce n'est pas évident de revendiquer une identité transgenre.
Ok. Moi, j'ai fait mon coming out il y a peut-être 2-3 ans à mes amis, par Internet. c'était pas un coming out, c'était juste je voulais mettre les choses par écrit parce que il y a le symptôme d'amnésie du genre qui existe aussi chez les moins de 40 ans et pas que chez mon père, donc je voulais que ce soit écrit pour être bien sûr, quoi, pour qu'on puisse en discuter, parce que tu leur dis que tu changes, que tu vas changer, tout ça, enfin j'ai pas forcément dit que changer de sexe parce que ça veut rien dire comme expression, mais d'autant que celui de départ était pas tellement défini non plus, mais voilà, enfin c'était pour poser les choses clairement et qu'ils arrêtent de s'imaginer que, je sais pas, qu'ils s'imaginent pas que je vais devenir un type hétéro ou qu'ils s'imaginent pas que je sais pas, enfin des trucs affreux, ou qui me prennent pas pour une lesbienne masculine, enfin j'ai rien contre, simplement c'est pas ce que je suis. Mais j'avais fait un premier tri à 18 ans quand j'ai fait mon coming out de lesbienne, donc après bon à 28 le coming out que tu fais auprès des gens, forcément il y a moins de, voilà, il y a moins d'opposition, ce qui veut pas dire que les gens comprennent, hein. Par contre même si j'ai que des amis de gauche, à moins que des vicieux se soient incrustés, se soient fait passer pour des progressistes, en fait, voilà, les gens qui sont pas bio comprennent pas. Ça a rien à voir avec le fait d'être homosexuel et hétérosexuel. J'ai l'impression que ils ont des espèces de considérations aussi. On m'a dit un jour qu'il fallait pas que je prenne de la testostérone parce que ça allait me faire devenir violent. Comme si c'était ça qui allait me faire devenir violent. J'allais mourir d'un cancer très très rapidement. Donc j'ai répliqué que je préférais mourir d'un cancer en tant que moi plutôt que continuer à vivre sans mes hormones. Des espèces de considérations comme ça un petit peu étranges. Et très 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 essentialistes à chaque fois. Hein. Surtout de la part des homosexuels en fait, hein, qui psychote sur le fait que tu sois un garçon et que t'es pas de bite et que t'es un vagin et qu'en plus tu sois super à l'aise avec et que tu passes un peu ta vie à leur en parler. Du coup, ça les rend complètement fous. Les personnes bio hétéro que je connais sont vraiment les plus bizarrement sont celles qui posent le moins de réticence, mais aussi parce qu'en fait ce sont celles qui comprennent, à mon avis, qui comprennent le moins de choses possibles. Je pense que les choses se résument à j'étais une fille, je deviens un garçon, en fait, pour mes amis bio, hein, hétéro, moi je sais pas pour les vôtres, hein, mais donc voilà.
Et du coup, en fait, on discute...
Ça se prend la gueule, la bonne arrière.
Et c'est complètement passionnant. On a complètement zappé notre programme. C'est-à-dire qu'on devait passer des bouts d'enregistrement, des chansons et trucs comme ça. Puis on a papoté et on a zappé tout ça. Mais il y avait une deuxième partie de l'interview. Et là, il nous reste 5 minutes. Et peut-être on peut essayer de donner quelques pistes. Parce que... c'était plutôt autour des stratégies qui sont mises en place au quotidien par rapport à ce qui est renvoyé dans la figure et les solidarités collectives qui peuvent exister.
Bah alors moi je vais commencer à répondre à ça. Je pense que au début de quand j'ai commencé à prendre des hormones et avant même, quand j'ai commencé à demander aux gens de m'appeler il, c'était hyper dur pour moi dans des interactions avec des gens du quotidien Et je pense que je me suis vachement reposée sur mes amis, en fait, enfin, sur les gens qui m'entouraient. Et parce que c'était pas facile pour moi de toujours être dans le truc, dans le non, moi c'est in, moi c'est un, je suis un garçon, blablabla. Et c'était hyper cool, en fait, d'avoir des gens qui, derrière toi, poussaient le truc, en fait, et sur lequel tu pouvais te reposer. Et je pense que ça m'a vraiment beaucoup servi, quoi, d'avoir des gens qui étaient là, non mais c'est il, que ce soit pas toujours moi qui doivent le faire. Bon, je pense que ça m'a beaucoup servi, je sais pas sinon, stratégie, à part dire je vous emmerde.
Bah moi, donc du coup je me suis reposé dans les collectifs transpédouin féministes pour pouvoir en fait vivre mon identité avant, et donc du coup maintenant en tant que transgenre, et de pouvoir en fait se définir soi-même et que cette définition ça soit respectée, même si la image que tu renvoies ça soit pas forcément la même. Et voilà, en fait, moi qu'est-ce que j'aimerais bien donner ces stratégies par rapport au travail, si jamais il faut trouver d'argent autre que il faut trouver d'argent, bah, beaucoup ou quoi, bah, j'aimerais bien créer des coopératives de travail s'organiser ensemble entre féministes et transpédouines.
Bon, et eh bien, je vais terminer. Non, mais je sais pas, c'est pas vraiment une stratégie consciente ou volontaire, mais le fait est qu'on finit toujours par, dans la vie, par s'entourer des gens qui te valident dans tes choix. Donc, bah oui, par élimination, je finis par ne fréquenter à 75% plus que des personnes trans. En plus, ma copine est trans, donc voilà. Et puis, bah, comme on a créé l'association, là, Chrysalide, il y a quoi, il y a 2 ans. Enfin, en fait, ça a commencé il y a 3-4 ans, mais ça fait 2 ans que c'est vraiment une asso. Ben oui, on finit par... on se voit à l'extérieur de l'association, donc pareil... sans dire que ce soit devenu, qu'on soit devenu les meilleurs amis du monde, mais quand tu sociabilises, ben forcément tu sociabilises avec des gens qui t'acceptent comme t'es et pas qui te remettent en cause, qui remettent en question toute ta vie à chaque phrase, quoi. Donc voilà.
Et tu peux nous en dire un peu plus sur Chrysalide ?
Oui, je peux. Ben non, ben on tient des permanences donc une fois par mois, tous les 3e samedi de chaque mois. À RIS, donc l'asso LGBT, là, au terreau. Et ben, le principe, c'est que toute personne en questionnement, que ce soit pour elle-même ou pour un proche, est le bienvenu. Est la bienvenue. Donc, en fait, le but, hein, c'est simplement un tissu de sociabilisation, en fait. Et à partir de là, si des gens veulent militer, veulent faire des choses un peu politiques, ça fonctionne. Si d'autres, leur militantisme, c'est aller faire des courses, elles y vont. Si des gens veulent aller au resto, parce que c'est pas facile, ça non plus, de sortir dans les lieux, les lieux normaux, pour beaucoup de gens, c'est très difficile. C'est, en fait, on a pris ça comme un point de départ, en fait, pour que les personnes de tous horizons puissent venir se rencontrer, de tout âge, puissent venir se rencontrer et faire des choses ensuite en dehors de l'association. C'est le principe, c'est le but. Donc voilà, venez nous voir.
Ben, merci d'être venu au studio de Radio Canu. On va finir par les rendez-vous de la semaine.
Donc ce soir à 18h, c'est-à-dire dans 3 minutes, il y a une projection d'Irina Palme à l'atelier, c'est 91 rue Montesquieu, et c'est suivi d'une discussion, et c'est une soirée organisée par le collectif Langue de Pute.
Le 21 mars, donc c'est pas cette semaine, mais la semaine d'après, il y a les Assises de la prostitution à Paris, suivi du samedi 22 mars de la Pute Pride. Donc les Assises de la prostitution, c'est au métro Odéon, théâtre de l'Odéon. Et pour plus d'infos, allez visiter le site lesputes.org.
Et samedi, du coup, demain, à la librairie Terre des Livres, il y a les personnes qui ont écrit « Mon corps est un champ de bataille 2 » qui viennent discuter à 15h et le présenter. Et du coup, vous pouvez aussi l'acheter dans toutes les bonnes librairies. Du coup, c'est Mon corps est un champ de bataille 2 et il vaut le détour. Et on va finir cette émission par une petite chanson quand même. Et du coup, on va diffuser Viscéralement Déviant.
Nous sommes un fléau social.
votre futur, sentez pur et propre, empoisonné par vos normes étriquées. On est votre pire cauchemar, la bête noire, mais on n'est pas des objets de foire. À chaque contrôle d'identité, avoir la gorge serrée, de penser qu'on va m'emmerder, parce qu'il faut que je deal avec l'état civil qu'on m'a imposé.
J'en ai marre de stresser, toujours hésiter devant les portes des chiottes, à pas savoir derrière laquelle je vais aller chier, parce qu'on va encore me dire que je me suis trompé de côté.
Tu me trouves trop bizarre, juste parce que tu n'arrives pas à savoir qui
a une bite,
qui
a un vagin,
qui
a un liquide.
Qui a des seins, ça t'emmerde de ne pas pouvoir nous définir. Nous c'est ce qu'on kiffe, fiers d'être queer. Madame, monsieur,
un deux,
y'a pas de numéro pour me décrire.
Y'a pas de chiffre pour capter l'ampleur du mot queer.
Je veux pas de ton numéro,
t'arrives trop tard, je suis sorti du placard. C'est pas pour retourner dans ton ghetto.
Je sais pas combien de fois j'ai rêvé d'envoyer un missile dans le bureau de l'état civil, d'éclater la sécu avec des obus, ou de descendre des psys à coups de fusil. Tu me trouves trop bizarre, juste parce que tu n'arrives pas à savoir qui
a une bite,
qui
a un vagin,
qui
a un liquide,
qui a des seins. Ça t'emmerde de ne pas pouvoir nous définir. Nous c'est ce qu'on kiffe, fiers d'être queer. Et tu sais, quand tu me traites d'enculé,
tu te diras jamais à quoi ça me fait penser,
à tout le plaisir que ça peut me procurer,
de me prendre des doigts ou de me faire goder.
Tu me trouves trop bizarre, juste parce que tu n'arrives pas à savoir qui
a une bite,
qui
a un vagin,
qui
a un liquide,
qui a des seins. Ça t'emmerde de ne pas pouvoir nous définir. Nous c'est ce qu'on kiffe, fiers d'être queer.